L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria. Nous sommes toujours en direct de l'AREF 2026 depuis la Porte d'Auteuil au stade Roland-Garros. Depuis hier, nous recevons de nombreux invités et on continue cet après-midi. Il y a quelques instants, on recevait le ministre Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement et de la Ville. Nous poursuivons. Le thème de cette REF, c'est le courage. Et s'il y a un univers où cette notion prend évidemment tout son sens, c'est celui de l'entrepreneuriat. Prendre des risques, décider dans l'incertitude, continuer malgré les doutes, parfois se retrouver seul face à des choix qui sont difficiles à faire. François Michelon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en leadership et performance mentale, auteur et conférencier, essayiste. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Et à vos côtés, il y a Françoise Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé l'Institut des entreprises remarquables qui observe notamment ce qui fait qu'une entreprise parvient à conjuguer et d'un côté performance, engagement humain, confiance et utilité.
Absolument.
Vous allez nous expliquer ça dans un instant et je salue évidemment Sylvain Lévy-Valency qui m'accompagne sur cette interview. Ça va Sylvain toujours ?
Moi je suis ravi. Moi, maintenant que j'ai François Michelon sur le plateau, je ne peux pas rêver mieux.
Merci.
Merci François parce qu'on se voit quoi une fois par an ?
Oui, et merci de ta fidélité.
Au minimum. Et puis, Françoise, avec l'Institut des entreprises remarquables, et vous avez également un sourire absolument remarquable également.
Je vous remercie.
Voilà.
Ça, c'est un ensemble.
On pourrait dire jubilatoire.
Voilà. Merci à vous. Voilà.
Bienvenue en tout cas tous les deux.
Autant être de bonne humeur, on est d'accord.
Évidemment. Évidemment. François, lorsque vous rencontrez des dirigeants, est-ce que vous retrouvez justement ce sentiment qu'ils doivent gérer de plus en plus de choses simultanément ?
Mais c'est d'une évidence complète, c'est-à-dire qu'il y a une charge mentale, puisque ça s'appelle comme ça, qui leur tombe sur les épaules, et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a une incertitude, et cette incertitude, elle est grandissante, et qu'on se prend une incertitude encore pendant un an du fait qu'il y a des élections à venir, et que cette incertitude fait que, pour avoir du courage, c'est très difficile, parce que le courage, on peut l'avoir, ça vient du cœur, mais courage avec l'incertitude, c'est difficile.
Françoise ?
Oui, alors moi je suis sur la révélation, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans l'entreprise ce qui ne se voit pas. Donc il y a toujours du baume au cœur à la sortie de mes entretiens parce que finalement on révèle des choses et on sort du quotidien qui parfois effectivement est un peu morose.
Alors justement, vous avez créé cet institut des entreprises remarquables. On pourrait se dire d'ailleurs que c'est peut-être un institut supplémentaire à tous ceux qui existent. Mais il y a quand même une particularité, c'est que vous, dans ce que je lis, puisque je découvre votre institut, il y a une certaine singularité. C'est voulu, ça quel est le fruit ? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Françoise Durand, à vous dire cette singularité-là dans l'entreprise qui finalement n'est qu'un miroir sociologique de la société en tant que telle, vous a amené à la création de cette entreprise. C'est quoi ? C'est votre vécu ? C'est des expériences de vie ?
C'est la combinaison entre un parcours universitaire et un parcours professionnel. Diplômée d'ethnologie, je n'ai jamais exercé l'ethnologie et j'ai toujours travaillé dans des organisations patronales. Et en fait, c'est la conjugaison des deux qui fait qu'à la cinquantaine, je crée l'Institut des entreprises remarquables. C'est-à-dire je m'appuie scientifiquement sur la démarche ethnologique, ethnographique, pour aller chercher l'invisible, l'informel, pour le révéler, et maîtrisant ou ayant une certaine connaissance du monde de l'entreprise, parce qu'effectivement, il y a eu plus de 20 ans d'organisation professionnelle, eh bien, j'arrive à faire émerger des éléments presque scientifiques, j'ai envie de dire, mais en tous les cas, qui relèvent de sciences sociales, oui.
Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce côté universitaire, finalement, c'est une configuration intellectuelle intéressante que vous avez mêlée à l'entrepreneuriat, qui est beaucoup plus concret, enfin, un peu moins abstrait, parce que je vais vous dire, les entrepreneurs de notre pays, ils mettent un petit peu leur sur le bio chaque jour, quand même. Hein. Est-ce que cette confrontation, elle est pour vous, ça vous a amené à vous dire, il y a une richesse dans le monde de l'entreprise et il faut la mettre en relief et on va appeler ça quelque chose de remarquable. C'est ça qui est...
Tout à fait, c'est ça.
Est-ce qu'il n'y a pas une illustration, un exemple que vous avez vécu ? Vous dites, tiens, là, il y a une idée intéressante.
Oui, il y a plein d'exemples concrets. C'est la féminisation au sein des usines d'automobiles qui change totalement la culture industrielle de l'automobile sur les territoires. On en parlait tout à l'heure. Les territoires sont vraiment au cœur de notre compétitivité. Donc, c'est aujourd'hui comment cette culture de l'entreprise est modifiée transformée par l'arrivée d'une nouvelle population. C'est aussi dans des entreprises, des PME, j'allais dire des communautés, des nationalités différentes, notamment dans le secteur du BTP. On l'a connu après-guerre, mais aujourd'hui, c'est un renouveau, c'est un retour. Eh bien, ça change l'organisation. Donc, on travaille autrement en entreprise avec ses salariés, ça c'est évident. Et c'est souvent ce qui fait qu'il y a des éléments remarquables et qui ne sont pas forcément communiqués parce que il relève de l'informel, il relève, j'allais dire, de cette intelligence pratique au quotidien qu'un chef d'entreprise, avec du courage, puisqu'on parlait de courage, avec ce courage, de façon parfois inconsciente, va user et va faire avancer son entreprise.
Alors justement, quand on voit ce genre d'initiative, François, tu en as vu beaucoup hein, dans ta carrière, des belles initiatives, effectivement. Alors en plus, les contributions sur les livres que tu as récemment publiés, d'ailleurs il y a un livre qui a été republié également avec le docteur Ali Avdehi,
oui.
Sur le burn-out, hein, sur la charge mentale de l'entrepreneuriat, bien évidemment, c'est un vrai sujet. Quand tu vois ce genre d'initiative, que tu apprécies certainement, est-ce que ça conforte l'idée finalement qu'il y a une évolution dans les mentalités où finalement créer une entreprise, distinguer les entreprises, c'est pas uniquement un rapport au profit, à la possession, à l'avoir, mais peut-être aussi une conjugaison entre l'être et l'avoir.
Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est justement, François, ce qui va faire ressortir cela. Parce que quand on pense industrie remarquable, on pourrait dire qu'est-ce qu'elles ont fait d'extraordinaire. Mais ce sont des petites choses qu'elle va trouver, comme elle a expliqué, qui fait que ça permet de mettre en avant. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément visibles dès le départ. Et qu'elle n'est pas en recherche de dire « je vais vous décerner un prix, une médaille ou quoi que ce soit ». Ça peut être une petite entreprise ou un artisan qui fait des choses exceptionnelles, qui est remarquable, peut-être parce qu'il a eu le courage de faire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça redonne du sens.
Bien sûr.
Et c'est pas une course à la, je dirais, à la méritocratie. C'est pas une course au budget.
Françoise, votre institut, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez d'aller dans telle ou telle entreprise ou c'est l'entreprise qui vous sollicite ? Comment ça fonctionne en
fait ? Alors aujourd'hui, c'est au gré de mes rencontres, c'est-à-dire comme par ailleurs, j'ai une activité économique, je rencontre des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je suis là, j'ai envie de dire, j'ai deux têtes. Hein. Ouais. Donc c'est au gré des rencontres, des discussions. Et c'est surtout pas dans des milieux où on pré-programme le discours, j'allais dire, entrepreneurial. C'est justement en dehors. Ça va être un pot, un cocktail, chez des amis, où bah voilà, on présente un chef d'entreprise. Et puis, à un moment donné, il y a des techniques. Il y a des techniques d'entretien semi-directif, d'explicitation. Et on se rend compte que bah, le chef d'entreprise, il aime parler de son entreprise.
C'est quoi un entretien semi-directif que je comprends ?
C'est juste une question et je vous laisse libre de parole.
On appelle ça un entretien. J'ai appris
Exactement.
Quelque chose. Vous avez déjà enseigné. Non, mais j'adore ces termes-là parce qu'il y a toujours une explication semi-directive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de poser une question.
Exactement.
Une seule.
Et d'accord. Je relance.
D'accord. Et vous relancez voilà. Derrière,
et je relance.
Effectivement.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
François, vous parlez beaucoup de charge mentale, effectivement, de l'entrepreneur. Le courage d'un dirigeant, c'est aussi parfois être capable de dire. Je ne sais pas, je me suis trompé ou alors j'ai besoin d'aide aussi. Ça aussi, c'est important et on a l'impression qu'on est encore un peu éloigné de cette image-là. Quoi. Comme si c'était pas bien de montrer sa vulnérabilité en tant que chef d'entreprise.
Mais c'est du courage.
Oui, c'est une forme de courage.
C'est du courage.
Oui, c'est du courage. Alors, bien évidemment, je me fais l'avocat du diable, hein, forcément. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a le côté un petit peu genre... Disneyland, on est tous heureux, on s'aime, je vais bien, tout va bien.
Non, on n'est quand même pas dans le pays des bisounours.
Non, mais c'est intéressant parce que je voudrais qu'on distingue bien le fait que c'est pas un artifice qui permet aux entreprises de mieux faire bosser les gens, donc par exemple de les exploiter, par exemple, parce que c'est un vrai sujet, ça aussi, entre le rapport au travail et la création de richesse. C'est une question qui se pose de plus en plus. D'ailleurs, soyons clairs, si les entreprises aujourd'hui sont devenues des entreprises à mission, des entreprises qui ont des fonds de dotation, des entreprises par exemple qui sont en SCIC, c'est-à-dire en coopération d'intérêt collectif mêlant capital et démocratie, c'est pas neutre. Ils l'ont pas sorti. Maintenant on parle de RSE, on parle d'ESG, et d'ailleurs il n'y a même plus un euro affecté à l'Europe en termes d'investissement massif qui n'est pas assorti de ratios extra-financiers. même sur le bien-être et la santé mentale. C'est-à-dire que bien faire des ratios sur la santé mentale et la qualité de vie des gens dans l'entreprise, dans la levée de fonds ou dans des assets ou de la finance, qu'on appelle de finance durable ou finance verte. Mmh. Ça veut bien dire que le combat, finalement, il a été mené. Est-ce que, finalement, dans une certaine mesure, alors c'est plus une réflexion qu'une question, on ne serait pas dans une ère un peu post-capitaliste, je n'ai pas dit anticapitaliste, hein, post-capitaliste, où on a un capitalisme nouveau, plus humain peut-être, où l'humain, finalement, est devenu presque un des composants de l'investissement et des développements dans le monde, aujourd'hui, dans l'entreprise. Vous avez ce sentiment ou pas ?
Moi, je perçois tout simplement qu'il y a de nouveau la volonté de laisser la place aux collaborateurs. Une étude qu'on a menée à travers cet institut auprès des 16-29 ans, on leur a juste posé la question, c'est quoi pour vous une entreprise remarquable ? Parce qu'on voulait de la matière, on voulait des éléments, on voulait un peu des hypothèses, vous qui m'interrogez sur les techniques. Bien, en fait, oui, les jeunes 16-29 ans, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout les mêmes attentes que les 29 et plus. Donc finalement, avec des observatoires comme celui de mon institut, on peut se rendre compte qu'il y a des nouvelles mutations, il y a des tendances. Alors d'où elles viennent, je ne sais pas.
Et l'échantillon, il est suffisant pour être documenté ?
Aujourd'hui, il est de 500 jeunes. Il va être renouvelé à partir dès la rentrée là, scolaire.
500 répondants.
500 répondants. L'échantillon était de 500 répondants. Je souhaite aller plus loin et je souhaite faire un focus sur les 16-20 ans. Au niveau national. Donc ce premier échantillon, il a donné lieu à des hypothèses que là, je vais aller confirmer ou infirmer à partir d'une deuxième étude.
Pourquoi 16-29 ans et pas 18-29 ans ?
C'est tout simplement, alors je vais vous dire, ça correspond à un jeune qui est en entreprise légalement, c'est le contrat d'apprentissage, 16-29 ans.
D'accord.
Avant 16 ans, pas possible. Après 29 ans, il est salarié. Donc moi, je voulais cette cible-là qui a une première expérience de l'entreprise. On parle beaucoup d'apprentissage. Moi, je n'ai pas voulu avancer la notion d'apprentissage, mais j'ai voulu avancer une tranche d'âge segmentée.
C'est génial, l'apprentissage. L'apprentissage, l'alternance, c'est la troisième voie de l'éducation. C'est surtout, en plus, une voie très égalitaire, puisque que vous soyez riche ou pauvre, quand vous êtes en contrat d'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de qualification, eh bien, vous êtes soumis aux mêmes règles.
Et oui, ça permet d'avoir un pied à l'étrier, et puis d'avoir une expérience.
Parce que quand un jeune veut faire des études, on c'est pas toujours le cas d'avoir des parents qui sont capables de payer 15 à 20 000 euros de scolarité chaque année, sans compter le logement, la nourriture, etc.
Mais jusqu'à maintenant, c'était pas valorisé à sa juste valeur.
Très juste, très juste. Donc,
ça a été longtemps une voie de garage.
Mais on est bien d'accord, c'était même montré du doigt.
Qu'est-ce qui ressort de cette première étude, en particulier, quelque chose qui vous a vraiment...
Il parle beaucoup, le mot-clé qui est ressorti, puisqu'on a fait un travail, on était deux, on a travaillé avec Power BI, et ce qui est le terme le plus fort, ça a été le côté humain. Donc ça répond à votre question précédente. En fait, aujourd'hui, il replace l'humain. On a beaucoup parlé de cette génération post-Covid. Je pense que maintenant, il faut faire focus sur ces premières expériences de travail qui sont issues peut-être, il faudrait vraiment travailler le sujet, mais issues peut-être de cette période de Covid. Et là, on a ces jeunes qui centrent sur le côté humain. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on peut avoir, après coup, des méthodes de travail avec ces jeunes pour les faire perdurer au sein d'entreprise ou alors faciliter des trajectoires au profit de nos entreprises qui ont besoin de ces jeunes.
Vous connaissez bien le monde de l'entreprise.
Oui, enfin, je pense.
Et quand vous voyez les résultats de cette enquête, vous sentez une mutation des usages.
Absolument. J'avais un soupçon.
D'accord.
En plus, en
c'est quoi ? C'est une nouvelle forme anthropologique, urbaine, entrepreneuriale, ou est-ce qu'on parle vraiment d'une transformation sociologique ?
Je pense qu'on est au démarrage d'une transformation parce que cette population se cherche aussi. Elle s'essaye. On sent qu'elle s'essaye. Elle a eu son premier contrat à travers l'entretien, le contrat d'apprentissage. Et voilà, on en est là pour l'instant.
On n'en est pas sur les obédiences politiques, là ?
Pas encore, non.
D'accord. Mais non. Ça pourrait venir.
Oui.
Parce que là, je veux dire, ça serait... C'est pas anodin, ce qui se passe en ce moment, il faut le dire. On est à l'aube d'une élection présidentielle singulière depuis la naissance de la Ve République. Je pourrais dire que la première élection de la cinquième était aussi singulière, hein, après le projet de constitution du général de Gaulle. Et celle-ci, elle peut même susciter un bouleversement constitutionnel radical. Une chose est sûre, c'est que la France se divise. Mm-hmm. Que les populations se divisent, et particulièrement la jeunesse. Une jeunesse dont beaucoup, notamment en zone urbaine, périurbaine, est assez axée sur... la France insoumise, par exemple, avec des sujets de préoccupation qui sont assez singuliers comme approche, puisqu'on a quelques jeunes de banlieue qui se soucient, par exemple, de politique étrangère, alors qu'ils n'ont même jamais dépassé les limites de leur département. Je trouve ça assez singulier.
Oui.
Mais on voit bien qu'il y a une opposition entre ces zones urbaines, ces zones à forte concentration, les grandes métropoles, 17 grandes métropoles, la ruralité, les centres-bourgs, les petites villes, où là, c'est carrément l'opposé. On a l'impression de ne pas vivre dans la même France. Est-ce que, quand vous voyez cet échantillon, puisque c'est eux, les décideurs demain, c'est eux qui vont amener les élections prochaines, qu'est-ce que vous traduisez dans ces mouvements? Est-ce que vous sentez qu'il vaut mieux politiquement qu'on accompagne,
ou
que les choses vont devenir compliquées?
Il faut toujours accompagner cette jeunesse. Cette jeunesse, elle a besoin d'être accompagnée, que ce soit effectivement dans son cadre sociétal et comme dans l'entreprise. On parlait de l'apprentissage, c'est le propre de l'apprentissage d'avoir un accompagnement.
Est-ce quelque chose qui vous a choqué, qui vous a vraiment surpris? Vraiment, peut-être même un peu sidéré.
Très sincèrement, parfois j'ai des chefs d'entreprise où ils ont besoin de temps pour se dire, en fait, c'est quoi dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Donc là, je me dis, ils ont la tête dans le guidon et ils n'ont jamais finalement...
Je confirme.
J'en suis triste parce que moi, je le vois qu'il y a des éléments remarquables, mais ils ont la tête dans le guidon, c'est au jour le jour, c'est sous la pression. On l'a vu durant ces deux jours, c'est une pression infernale administrative, économique. Oui. Et c'est un peu dommage parce que vraiment, il y a des sujets remarquables dans nos entreprises.
Et c'est difficile de faire le pas de côté. Mais, quoi.
Voilà.
Ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que dit Françoise, parce que moi, de ma fenêtre, je vois des personnes qui sont remarquables, où j'accompagne des personnes qui les ont, mais qui ne se voient pas remarquables.
Comme l'étant, oui.
Et je leur dis, mais attends, c'est extraordinaire ce que vous avez. Mais non, j'ai rien.
Oui, parce qu'ils le savent tous les jours.
Ils ne se voient pas. Et comme ils ont la tête dans le sac, ils ne peuvent pas voir.
Vous savez, souvent, la beauté, elle est dans l'œil de celui qui la regarde.
On est bien d'accord.
Donc, je trouve ça plutôt intéressant. C'est même, d'ailleurs, souvent une preuve d'humilité. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs au bord du gouffre. Les statistiques 2025 ont démontré qu'on avait le plus fort taux de défaillance d'entreprises en Europe, avec 66 000 défaillances, ce n'était jamais arrivé depuis plus de 50 ans. Les salaires moyens des entrepreneurs, des deux tiers des entrepreneurs, dépassent à peine celui d'un cadre moyen, avec hypothèque sur la maison, zéro chômage, aucune aide, etc. Je vais aller dire, à part le sacerdoce, je ne vois pas comment on peut devenir entrepreneur aujourd'hui. Donc je peux comprendre, effectivement, qu'on puisse lui dire, mais ce que vous faites, c'est hyper remarquable. Moi, je trouve que ce qui est remarquable, c'est de créer une entreprise.
Ah ben oui.
Absolument.
D'abord.
Oui, bien sûr. Mais personne
n'imagine... Mettez à l'honneur ces entrepreneurs.
Oui.
C'est bien ce que vous faites. Dites-leur, vous avez raison, vous avez créé une boîte, vous avez réalisé votre rêve, vous faites bosser des gens, vous créez de la valeur. On a besoin de vous. Et pas uniquement quand on s'appelle de grandes entreprises ou de grandes banques, etc. Mais ces millions de tout petits entrepreneurs, le garagiste du coin, le commerçant, l'artisan, salarié, deux salariés, trois apprentis, et qui font la richesse de notre pays, qui font la richesse de nos savoirs, la richesse de nos métiers. C'est eux qu'il faut mettre en avant et qu'on arrête systématiquement de les juger comme la variable d'ajustement fiscal, chargé, etc., etc. Parce que vous savez qu'un entrepreneur, quel que soit son statut, il n'est jamais pris en charge s'il n'a pas lui-même fait des démarches pour le faire.
Oui.
C'est terrible, quand terrible. On fait ces constats-là. Moi, je trouve ça assez intéressant. C'était bien de finir sur...
Mais oui, voilà.
Sur une
interview remarquable.
Et de mettre à l'honneur. On va donner l'adresse URL de votre institut. Donc,
Institut des entreprises remarquables.
Voilà, vous tapez Institut des entreprises remarquables, IER, vous allez voir, c'est marqué.
Voilà, sur l'URL. Est en bas.
En point com.
Et vous pouvez m'écrire. Voilà.
Oui, en plus, vous avez un nom hyper facile à retenir.
.fr, j'ai un gros doute.
Oui, c'est .fr.
On vérifiera.
.fr.
Et François, vous êtes en pleine écriture.
Alors, le bouquin, on peut se le procurer où?
Le bouquin, dans toutes les bonnes librairies. Puis là, on vient de sortir un nouveau livre avec État d'esprit, Miroir de l'âme, levier d'action, avec le docteur Ali HDI et avec Jean-Philippe de Guérade, qui est un ex-magistrat. Parce que l'état d'esprit est important. Donc, on a voulu, chacun à notre manière, parler de l'état d'esprit et comment modifier l'état d'esprit.
Ben voilà, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une spéciale justement sur ce bouquin. On le lira d'abord parce qu'on ne l'a pas encore lu,
pour
le dire. On peut être très honnête, on ne l'a pas encore lu. On va le lire et on fera une émission dédiée. Justement, je vais même demander d'ailleurs à notre ami Philippe Boyer, qui fait une émission qui s'appelle Complètement à l'Ouest. Je ne dis pas que tu es complètement à l'ouest, hein, mon cher.
Je ne me serais pas.
Pour justement le mettre le focus sur ce bouquin. Ouais, voilà, un immense merci.
Merci, merci à vous.
Changez
à vous.
D'avoir répondu. Changez rien, hein, surtout. Hein. Changez pas.
Merci.
Toi aussi, tu ne changes pas. Bah, toujours aussi. Toujours aussi. On va pas dire qu'on se revoit l'année prochaine. On va
se revoir avant.
On va se revoir avant. Bah, voilà, je crois que c'est la fin de nos émissions.
Oui. Merci, Sylvain.
Merci, Jean-Baptiste.
On a passé un bon moment.
Une très bonne rentrée économique.
Un bon cru.
Un peu fébrile, bien évidemment, parce que on est quand même dans une grande incertitude, il faut être même extrêmement clair, mais une grande résilience, une grande vitalité.
Et puis une forme d'optimisme.
Et
quand
surtout,
même,
donc une grande fierté d'appartenir à notre pays, une grande fierté d'être français. La France a du talent, elle a un incroyable talent.
Et, ça pourrait faire le nom d'une émission, ça, tiens.
Oui, absolument, mais je le dis pour ça. Mais en fait, en réalité, il faut vraiment mettre l'accent sur tous ces gens au quotidien, que ce soit les élus locaux, les entrepreneurs, qui participent à l'unité de notre pays. Et on en a bien besoin.
Une chose qui est importante, de garder la joie et l'enthousiasme.
C'est hyper important.
Toujours, parce que rien ne saurait résister aux accents de la passion.
Le sourire et dire merci.
Voilà, absolument. Merci.
Un grand merci justement à vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Toutes les émissions qui ont été faites dans le cadre de ces deux jours de salon, eh bien, vous pouvez les retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très vite. Ciao. Salut.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.